Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Lecture en liberté, Denis Flageul.
Bonsoir. Nous voici de nouveau ensemble donc pour la suite du roman de Antoine Blondin, L'humeur vagabonde. J'errai longuement. Ma mère eût admiré mon zèle. Elle me disait souvent, parlant de Monsieur Amouroux, « Tu lui dois bien une petite prière. » Et je me proposais de lui conter le récit de cette expédition dans ma lettre d'arrivée, bilan modeste, que je maquillerais un peu. Au reste, cette course tour à tour distraite et tendue épousait les méandres de la prière. Elle tournait à la gageure et au soliloque. Écrirai-je également à Denise. La dernière fois que nous étions allés sur la tombe de mon père, elle portait une courte jupe de tennis qui lui couvrait à peine les cuisses, et je n'avais cessé de m'excuser à voir intérieur n'ayant Dieu que pour cette peau bronzée sous laquelle les muscles chauds encore de la partie que nous venions de disputer étaient parcourus d'ondes. J'écrirai à Denise. Nous aurions pu former une bonne équipe. Ainsi, je traversai le columbarium. C'est une étrange demeure que l'on prend de loin pour un cloître italien en lisière d'un bouquet d'arbres. À y regarder de plus près, c'est la réplique de ces immeubles termitières qui s'élèvent sur l'emplacement des anciennes fortifications. Concentration verticale, simplification, uniformité, voire hygiène. Mais on regrette que le sens pratique marque la fin d'une civilisation des nuances. Voici les faubourgs de la nécropole, d'une géométrie moderne et ingrate, noircie par la fumée des crématoires. Et plus loin, la zone des concessions à peine trentenaires, des mal enfouis, prolétariat des ombres sans fleurs, ni couronne, ni épitaphe parfois. C'est la partie militante du cimetière, où reposent de vieux compagnons de barricade et leurs adversaires fraternels, couchés dans le même sommeil sans faux plis des insurgés. On y peut mesurer sans tourner la tête l'espace entre Vaillant Couturier et Robert Brasillach, qui marchait à l'autre aile. J'atteignis la clôture léchée par des herbes folles. D'où j'étais, je n'apercevais plus aucun promeneur. De multiples vallonnements me retranchaient du décor des activités réservées au public. J'étais un peu dans les coulisses, encombré de blocs de pierre moussue, de ferrures rouillées, de longs étais de bois vermoulu, légers squelettes végétaux que je faisais rouler du pied. Le crépuscule s'installait par couches successives de gris et de violet. Des cloches se répondaient. Un clairon sonnait dans une caserne, puis dans une autre. Je renonçais à m'attarder à cette recherche sans espoir. Monsieur Amouroux me tiendrait quitte sur l'intention. Mais n'avais-je pas au fond renoncé depuis longtemps, badaud des sépultures, comme qui ouvre un livre au hasard et s'oublie dans sa lecture. Remontant entre les marronniers, il me vint à l'idée de faire l'offrande de mon azalée à quelqu'un parmi ceux qui se trouvaient là. C'était une opération d'apparence simple qui favoriserait mon accointance secrète avec ce paysage dont les tonalités imprégnaient déjà les souvenirs doux amers de cette journée. Je n'avais que l'embarras du choix. Don d'un anonyme à un autre anonyme, c'était tout. Pourtant, je ne parvenais pas à me décider. Je ne sais quelle force me retenait de poser ce pot de fleurs sur la première tombe venue, obscur sentiment d'équité ou crainte qu'on interprétât pour sacrilège cette simagrée de ferveur sans objet. De tels gestes, pensais-je, doivent se justifier. Sans m'avouer que ça m'embêtait simplement de redescendre avec ma palme sur les boulevards, je tentais de m'arracher du cœur et de la mémoire des raisons de l'accorder à Rossini plutôt qu'à Bizet, au barbier de Séville plutôt qu'à Carmen, à Mademoiselle Mars plutôt qu'à la Patti, au mur des fédérés plutôt qu'à Monsieur Thiers, aux victimes plutôt qu'aux bourreaux. Mais ces morts, quand on les voit comme ça, sont dans une si apaisante égalité que nos prédilections et nos hochets prennent le poids des plus lourds pavés et leur turbulence dérisoire. N'osant entamer cette sérénité ni me compromettre, je me résignais à m'en repartir comme j'étais venu. J'avais remarqué un peu plus tôt une porte basse, ouverte sur une rue latérale et formant arcade dans un des redans de l'enceinte. Longeant celle-ci, j'entrepris de sortir par ce côté pour ne pas retraverser tout le Père-Lachaise, dont j'appréhendais les réseaux inextricables. Cependant, je me surprenais encore à flâner, ne m'épargnant ni la plus large courbe, ni le moindre recoin, négligeant de considérer en face si je m'étais engagé dans le bon sens. Peut-être sans en avoir pleinement conscience, étais-je en train de fuir cette porte. Peut-être différais-je l'issue qui allait me rejeter dans l'action nécessaire et la solitude peuplée plus redoutable que l'autre. Peut-être me refusais-je à quitter ces lieux. Ayant repéré dans le lointain un garde qui venait à ma rencontre, j'obliquai pour l'éviter. La paresse de parler, l'ennui d'interrompre une sorte de rêverie ambiante n'épuise pas l'explication d'un réflexe aussi prompt. Là également, je craignais sans doute d'être ramené sur la ligne de départ. Arrivé à la porte après de multiples détours, je dus me mordre les doigts. Elle était close à deux battants de fort métal contre lesquels je m'escrimais en vain. Avant l'angoisse diffuse d'être enfermé dans un cimetière, ce fut cette suffocation devant l'obstacle imprévu et insurmontable. L'oreille et l'œil collés à tour de rôle contre un interstice, j'entendais les bruits de la rue naître et décroître. Je voyais des personnages surgir dans le cône blond des becs électriques qui s'allumaient et s'estompaient dans la grisaille. Percevant des chuchotements de l'autre côté, je m'abandonnai à taper du poing sur l'un des vantaux. Quelques coups facétieux me répondirent, puis des pas s'éloignèrent entraînant. Quand je me retournai, c'était la nuit autour de moi, pleine d'embûches et de fantasmagories, de pyramides coiffées de boules comme des têtes de croix dont les bras ne demandaient qu'à s'agiter. Convaincu d'avoir à continuer de suivre cette muraille ourlée par endroits d'un reflet de lumière, je me lançai à tâtons et raillant mes manches aux aspérités de la paroi, manquant rouler dans des fosses couvertes de feuilles en putréfaction, trompé par les effets de la perspective. Je me guidais sur la masse sombre d'une bâtisse située à quelque distance. Les crochets auxquels m'obligeaient les sinuosités du chemin de ronde tantôt m'en rapprochaient, tantôt m'en éloignaient, et par de brutales oscillations m'en dérobaient l'unique fenêtre éclairée qui paraissait s'éteindre à intervalles comme un phare clignotant. Lorsque je crus l'avoir atteinte, je constatai que ce local n'appartenait pas au domaine du Père Lachaise, mais à un groupe d'usines, et que toute la largeur d'une venelle m'en séparait. Ici, le foisonnement des petites chapelles serrées les unes contre les autres rejoignait le mur, barrant le chemin. Je me retrouvai au fond d'un cul-de-sac. Je revins sur ma route pendant une centaine de mètres, puis je coupai carrément entre les tombes, me faufilant à travers des défilés encaissés, trébuchant dans des arceaux, mordant du talon dans des gazons si fraîchement remués que le seul contact m'en faisait frémir. Quand une allée s'amorçait, je ne pouvais résister à la tentation de m'y précipiter, et chaque croisement contribuait à me perdre davantage. Par moments, il me semblait entendre le souffle du chien que je n'avais aperçu de la soirée et auquel je n'avais plus repensé. Dans le désert d'août, personne ne lui apportait à manger. Il devait être affamé, prêt à mordre. Je n'avais pas peur des chiens à l'ordinaire. J'en avais même eu un que Denise avait vendu au temps où je possédais encore une femme, des enfants, une maison. Il y avait un siècle de cela et j'avais tout à réapprendre, les femmes, les maisons, les chiens. C'est pourquoi je redoutais celui-ci comme je risquais de redouter toute chose désormais. À l'instant que je me sentais le plus vulnérable, je reconnus Casimir Perrier au centre de la clairière, les avenues rassurantes, la solide architecture de la conservation, le poste de garde dans un halo et par-delà, le porche en demi-lune, les lumières du boulevard Gambetta, fleuve de lait. Ce soulagement, à sa manière, était un petit bonheur. Je me donnai le temps de l'accueillir, échafaudant des projets pour le dîner que je ne prendrais pas à mon hôtel, d'une tranquillité un peu étouffante, mais à la terrasse d'un restaurant, sous le rond d'une lampe. Ensuite, je chercherai les quartiers où vivent les hommes de mon âge et je m'y ferai des amis. J'étais de nouveau disponible pour toutes les séductions. J'allais franchir le seuil, ayant repris mon souffle et mes esprits, quand la porte du poste s'ouvrit. Un garde en jaillit avec la vivacité hargneuse des sédentaires, giflé par un coup de sang. « Vous, là, qu'est-ce que vous fabriquez ici ?» Espérant que c'était peut-être mon copain de tout à l'heure, le gentil veuf de Bagneux, je m'approchai, confiant, heureux, presque de pouvoir raconter mes déboires à quelqu'un qui fût en mesure de les apprécier. Ce n'était pas lui, mais un manchot, à la mine méticuleuse. Je cherchais la sortie. À cette heure-ci, vous ne savez pas que ça ferme à 6 heures? Vous n'avez pas entendu la cloche? Un second garde venait à la rescousse, énorme celui-là, et d'une bonhomie outrageante. Monsieur ne nous a pas vus, sans doute, quand nous sommes passés dans les allées. Et d'abord, qu'est-ce que vous attendiez, tapis dans le noir, qu'on soit parti se coucher? Je vous ai observé par la fenêtre, je voulais vous voir faire. De toute évidence, ils étaient à la fête, ivres de leur importance, le baudrier tendu sur le stylo mine. Mon veston souillé de terreau et de plâtras ne leur faisait pas bonne impression. Je me suis perdu. Et ça, dit le manchot en montrant la allée, ça n'est pas perdu pour tout le monde, hein? Moi, je ne demanderai pas mieux que de vous croire, mais il y a ça, vous comprenez? On n'a jamais vu quelqu'un sortir d'un cimetière avec des fleurs, fit le gros. Il va falloir s'expliquer un peu. Mais je les avais honte. « N'entrons, dis-je, on m'a vu, j'ai parlé à vos collègues, je suis allé à la conservation. »« Pas si bête. La conservation est fermée maintenant et vous pensez que demain il fera jour. Alors pourquoi vous ne les avez pas déposés si vous les aviez apportés dans cette intention ?»« Parce que je n'ai pas trouvé la tombe sur laquelle je désirais me rendre. Constatez vous-même, c'est Monsieur Amouroux, voilà le papier. » Le manchot s'en empara avec gloutonnerie. « C'est facile, dit-il, n'importe qui peut connaître un mort. C'est un de vos parents ? Pas même. Et puis d'abord, ne pas trouver une sépulture, ici, ça n'existe pas. Dites-nous plutôt où vous avez pris ce pot de fleurs, on avisera ensuite. » « Nulle part, protestai-je. Je ne suis pas un voleur. C'est grotesque. »
« Partir un jour. » Sans retour, effacer notre amour, sans se retourner, ne pas regretter, garder les instants qu'on a vus. partir un jour sans bagage, oublier ton image sans se retourner, ne pas regretter, penser à demain, recommencer pour l'envie que l'on a de guider ses pas, pour garder ses émois, écouter son cœur qui bat, pour savoir regarder un ciel étoilé, tendre les mains à son destin, vouloir plus fort encore demain, partir un jour sans retour, effacer notre amour sans se retourner, ne pas regretter, garder les instants qu'on a volés, partir un jour sans bagage, oublier ton image sans se retourner, ne pas regretter, penser à demain, recommencer pour l'amour que l'on donne et qui s'abandonne, un mot que l'on pardonne pour un rêve qui nous étonne, pour le goût retrouvé de la liberté, ouvrir les yeux sans se dire adieu, penser à rien, rêver un peu, partir un jour sans retour, effacer notre amour sans se retourner, ne pas regretter, garder les instants qu'on a volés, partir un jour sans bagage, oublier ton image sans se retourner, ne pas regretter, penser à demain, recommencer, partir un jour sans retour, effacer notre amour sans se retourner, ne pas regretter, garder les instants qu'on a volés, partir un jour sans bagage, oublier ton image sans se retourner, ne pas regretter, penser à demain, recommencer, partir un jour sans retour, effacer notre amour sans se retourner, ne pas regretter, garder les instants qu'on a volés, partir un jour sans bagage, oublier ton image sans se retourner, ne pas regretter, penser à demain, recommencer, partir un jour.
Lecture en liberté, Denis Flagel.
L'humeur vagabonde, Antoine Blondin. Mais les gens que je voyais passer sur le trottoir à quelques mètres à peine n'avaient pas de fleurs entre les mains. Ils portaient des cabas, des sacoches, des parapluies, objets inutiles. Je me rappelais que ma mère m'avait souligné les privilèges qui s'attachaient à un bouquet. Je conçus tout ce que mon attitude pouvait avoir d'insolite. « On peut vérifier si vous l'avez acheté dans le coin, comme la plupart des visiteurs, » dit le gros. « Il n'y a jamais que 5 marchands. »« Je ne l'ai pas acheté, je l'ai amené de chez moi. »« Bien joué, » fit-il. « Vous cultivez à domicile, sur le balcon peut-être. Et où est-il, votre domicile ?»« J'habite la campagne. J'en arrive. Je suis descendu à l'hôtel. » J'eus un petit choc en découvrant que mon hôtel ne portait pas de nom, des tailles infimes qui ajoutaient une touche défavorable au tableau d'ensemble. Mais ils n'insistèrent pas dans cette voie, se concertant un peu à l'écart sans relâcher leur vigilance à mon endroit. J'attendais avec impatience la fin de leur conciliabule, pensant que ma mésaventure ne pouvait s'achever sur d'aussi misérables soupçons. Une dernière fois, « Vous ne pouvez pas répondre raisonnablement ?» demanda le manchot. Soucieux de procédure, avec dans la voix la menace suspendue d'un coup de semonce. « Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? Je suis père de famille, j'ai deux enfants. » « Ah, vous n'êtes pas le seul, » coupa le gros, « pas l'histoire. Les petits métiers, c'est très joli à condition de ne pas tomber sur des malins comme nous. Si ça se trouve, ça n'est peut-être pas la première fois que vous faites le truc. Vous vous débrouillerez au commissariat. » Et il ajouta à l'adresse de son collègue, « Mais qu'est-ce qu'on risque ?» L'indifférence, l'hôtel, l'hôpital, la prison... Voilà les cases de notre jeu de loi. Je n'étais pas né pour aimer la police. J'appartenais à une promotion de garçons trop longtemps traqués et de toutes parts. En outre, j'avais grandi dans l'ombre d'un veuvage jaloux de sa respectabilité que la présence d'un gendarme dans le vestibule suffisait à troubler. La loi se confondait avec l'homme. Elle portait des moustaches, sentait le cuir, parlait fort. Tout ce qui manquait à la maison. Les gendarmes venaient souvent chez nous compléter un dossier de pension de guerre à la traîne, jusqu'au jour où ils revinrent plus souvent encore me requérir pour des services qui concernaient aussi la guerre. Mais ce n'était plus la même. Ma mère, sourdement, craignait toujours qu'on se méprît. Elle nous voyait déjà sur la sellette au regard de tout le village. Ce soir où c'était pour de bon, je n'éprouvais nulle honte, mais une répulsion physique. Je la ressentis dès qu'une poigne vigoureuse me poussait dans le panier à salade sous l'œil un peu navré du manchot qui s'avisait soudain de ce que sa procédure allait trop loin. J'aurais presque aimé qu'il vînt avec nous, si dangereux fut-il. Lui, du moins, je le comprenais, c'était un con. Mais les robots en bleu marine qui nous refoulaient aveuglément sur les banquettes et les pales civils à gabardine qui les faisaient manœuvrer ressortissaient à un autre règne de la création. Il me semblait s'ouvrir au commerce des hommes qu'au contact de quelques guapes patibulaires, vraies gueules d'habitués qui émaillaient notre parterre, échangeant avec elles des cigarettes et des plaisanteries et nous donnant avec ses partenaires choisis un numéro où les uns et les autres tenaient réciproquement le rôle du faire-valoir. Je ne voyais pas d'inconvénient à ce que les flics et les malfaiteurs fussent apprivoisés mutuellement. Mais je ne discernais pas très bien quelle était ma place dans ce concert. Ce n'était pas le moins gênant que de s'y sentir à la fois prisonnier et intrus. Notre autocar grillagé, sombre réplique des vaisseaux lumineux du Paris by Night, louvoya assez longtemps entre les pâtés de maisons du quartier, se garnissant peu à peu à chaque halte dans des grognements et des rires. Mais cette gaieté qui était celle des mobilisations générales tombait vite et les couples qu'on venait d'embarquer s'abîmaient dans d'inextinguibles baisers, des étreintes sans vergogne, des extases désespérées comme s'ils se fussent trouvés dans un avion en flammes. À voir les plus rassis se tenir la main silencieusement en grillant des cigarettes parallèles, on mesurait que l'homme n'est décidément pas fait pour vivre seul, éventualité qui guettait à brève échéance un certain nombre d'entre nous. Je ne sais pourquoi j'eus besoin de sortir mon alliance de mon portefeuille et de la remettre furtivement à mon doigt. Ces êtres avaient raison de profiter de leur temps. Car on nous sépara des femmes en nous parquant de part et d'autre d'une cloison à mi-hauteur dans le sous-sol du commissariat. Ces femmes menaient un train beaucoup plus vif que le nôtre et certaines commencèrent d'injurier avec méthode un jeune bureaucrate qui nous faisait face, assis derrière une table sur laquelle débouchaient nos stalles respectives. Autour de lui, serein sous la mitraille, était déployé le plus bel échantillonnage d'agents de police qu'on pût imaginer, depuis l'hirondelle vétilleuse aux jarrets entravés par la pince à vélo jusqu'au centurion motocycliste de qui j'attendais mieux. L'un d'eux disparaissait de temps en temps avec une liste de noms, les autres restaient là, à nous dévisager avec ennui sous l'éclairage cru ou chuchotaient des choses à l'oreille des filles. On nous avait pris nos papiers d'identité en arrivant au poste et nous attendions, qui sur des bancs, qui par terre, que le fonctionnaire nous convoqua devant lui. De nouvelles fournées emballées par la rafle dégringolaient par gicler l'escalier en colimaçon. Nous leur faisions de la place. Des conteurs arabes s'installaient pour la nuit dans un récit scintillant de lames de rasoir. Beaucoup fermaient les yeux. Un ivrogne titubait jusqu'à la table et réclamait son vestiaire. Il était promptement ceinturé par un brigadier qu'il appelait chasseur. Un petit vieux ratatiné sous quatre gilets superposés passait entre les groupes, proposant des poupées de lainage qu'il confectionnait lui-même avec ingéniosité. Sa marchandise attirait surtout la convoitise des femmes. À l'affût de tous les remous qui se produisaient chez nous, étendant leur tête par-dessus la barrière comme des juments. Une brunette aux grands yeux mangée par une frange s'enquérait du prix avec un sérieux triste. « C'est une gagneuse, ma parole, c'est une gagneuse !» faisait le vieux avec des postillons lubriques. Il venait se coller en face d'elle, tentait un petit rétablissement sur la cloison qui faisait craquer lamentablement ses articulations, puis s'effondrait. J'entendais ses jurons. Je voyais la consternation sur le visage de la femme. Les agents le remettaient debout. « Tu veux aller dans la cage, petit père ?»« Non !» disait le vieux. « Non !» La femme qui s'était éloignée revenait à la charge. Mais le vieux avait l'air maintenant de faire la sourde oreille et geignait dans son coin tout en lançant des regards complices aux deux ou trois personnes qui s'intéressaient à la scène. Ce que voyant, l'autre faisait voltiger à bras tendus des billets de banque qui arrivaient jusqu'à lui. Le vieux se redressait alors dans des grincements de poulie. « Tu en as donc tellement envie » disait-il. Elle répondit que c'était pour son gosse. Elle ne pourrait pas aller le voir parce que ceux des mœurs l'avaient piqué, bien qu'elle fût en règle. Elle s'était laissée emmener pour ne pas faire tomber le troquet à la terrasse duquel elle travaillait. C'était très loin des 12 abat-jours. « Je crois qu'on va s'entendre, » murmurait le vieux en se rapprochant. « Marche un peu pour voir, prends du champ, je te dis. » La fille obéissait. Accomplissait quelques pas somnambuliques dans l'inattention générale, puis se posait sur ses hanches épaisses qui lui faisaient un socle. Seul le vieux ne la quittait pas des yeux. « Ça va » signifiait-il par une grimace experte et gourmande. « Tu peux revenir. » « Reprends ton argent, tu l'auras ta poupée. Mais tu sais ce que je veux ? Moi aussi, je veux une poupée. » « À ton âge, petit père, » disait-elle sur le ton d'une infirmière. « Je sais ce que je veux, » reprenait le vieux. « Et puis moi, je ne paye pas avec un chèque sans provision. Tu me verras un peu. Ça vous fait toujours rigoler, vous autres. »« Non, petit père, mais c'est pour ta santé. »« Justement, » disait le vieux. Et leur marchandage à voix basse remettait en question ce troc d'une poupée de laine contre une poupée de chair. Cependant, des mouvements houleux nous portait par intermittence jusque devant le bureau. Nous l'assiégions un instant dans la confusion. Quelques bourrades nous faisaient refluer vers notre point de départ. Notre impatience à marée basse laissait à découvert un grand espace de ciment sur lequel l'ivrogne dormait en rond. Les individus à mine d'escarpe que j'avais repérés tout à l'heure se montraient à l'usage d'une sollicitude fraternelle et nous faisaient bénéficier de leur expérience. J'étais, à vrai dire, le plus désemparé, en compagnie d'un colosse blond taillé en bûcheron de bas-relief qui nous était arrivé le visage en sang. Il vint s'asseoir à côté de moi, en lançant à la cantonade une allusion hermétique à la caverne de Platon. J'appris de sa bouche jubilante qu'avant d'être maîtrisé, il avait assommé deux sergents de ville qui prétendaient lui infliger une contravention pour défaut d'éclairage. Il possédait une bicyclette dépourvue de chaîne dont il se servait comme d'une draisienne pour descendre de ce haut plateau donner ses leçons dans le centre. Un disciple la lui remontait chaque soir sur son dos, car il était professeur de philosophie dans un cours de vacances. Ayant remis un peu d'ordre dans ses vêtements, il proposa à la ronde un concours à qui cracherait le plus souvent dans un casque qu'un de nos gardiens au bivouac avait eu l'imprudence de laisser traîner. Les souteneurs l'en dissuadèrent. Pour les remercier, il leur raconta le paradoxe d'Achille et de la tortue. Je me réveillai en sursaut à l'appel de mon nom. Je rêvais d'une hôtesse à deux battants qui donnait un dîner en mon honneur. Myriam se trouvait reléguée à une extrémité de la table, rongée de dépit et de curiosité à l'endroit de la personnalité qui allait apparaître. La porte s'ouvrait. Le valet de chambre m'annonçait.
« Laborie, ça vient ?»
Le jeune secrétaire s'agitait à l'autre bout de la cave, ses estafettes grondant à ses côtés.
« C'est vous, Laborie Benoît, vous êtes né le 2 novembre 21, domicilié à Mauvezac. »
Il ne me regardait même pas. Il ne se donnait pas la peine de sonder ce visage de loyauté que je lui offrais, ce port déférent et résolu. Il ne me jugeait pas sur la mine. Tout en me demandant si je ne devais pas crier mon innocence, la mauvaise pensée me venait que j'avais peut-être enfilé mon alliance moins par détresse que par calcul. J'ai cru très tard que les hommes mariés, les pères de famille, pesaient plus lourd que les autres dans les balances de la société. Voilà donc pour ce soir, donc la suite de ce roman de Antoine Blondin, L'humeur vagabonde, que nous retrouverons la semaine prochaine. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.